France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
Pourquoi ouvrir aujourd'hui un poème écrit il y a un peu plus de 2000 ans ? Qu'a à nous dire Lucrèce, ce disciple d'Épicure dont on ne sait presque rien, si ce n'est qu'il a fait rayonner dans les derniers soubresauts de la République romaine la parole de son maître ? De la nature des choses est pourtant bien plus que le long poème d'un épicurien, doux comme le miel, tragique comme nos vies. Il nous révèle qu'en 2000 ans, rien n'a changé, l'univers reste constitué d'atomes, de vide et de vivants, les religions sont encore des leurs, et nous voici toujours plongés corps et âme dans l'angoisse de la mort à venir. Le remède est alors ici, logé entre ces 7400 vers, ces 6 chants mélancoliques et nerveux que nous allons lire, un éloge de la raison pour connaître la nature des choses, et atteindre, ah non, pas le plaisir, mais tenter au moins de ne plus souffrir.
Le denatura, malgré son impersonnalité apparente, n'est autre chose, croyons-nous, que les confessions de Lucrèce, le récit d'un drame intérieur, le terme ultime d'un conflit anxieux qui s'est terminé grâce à Épicure par la défaite de la superstition. On comprend mieux dès lors l'accent pathétique d'une œuvre où le rationalisme militant est comme exaspéré, se trouve aux prises avec l'inquiétude religieuse. Le De Natura, c'est un bulletin de victoire après la lutte, le compte-rendu triomphant de la délivrance, quelque chose comme un chant de la libération ou la symphonie héroïque de la libre pensée.
Bonjour André Comte-Sponville.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, vous avez écrit Le miel et l'absinthe, poésie et philosophie chez Lucrèce. C'est un long commentaire sur le poème de la nature, donc son poème à Lucrèce, que nous allons lire toute cette semaine. Alors voilà, vous avez entendu une archive du docteur Logre, Benjamin Logre, c'est un nom quand même un peu bizarre pour un psychiatre. Il nous en dit plus sur la psychologie de Lucrèce. C'était donc un disciple d'Épicure, mais loin du côté solaire d'Épicure où on a affaire à quelqu'un d'anxieux. Est-ce que c'est ça qui vous a plu chez Lucrèce et qui vous a donné envie de consacrer ce long commentaire à son poème ?
C'est pas seulement ça, c'est en partie ça. C'est-à-dire, oui, il y a une dimension d'angoisse chez Lucrèce, une dimension de sagesse épicurienne, et ce qui m'a peut-être le plus frappé, c'est la tension entre les deux. C'est-à-dire que Lucrèce professe une philosophie, celle d'Épicure, qui est une école de sérénité, et comme poète, on le sent tellement plus doué pour chanter l'angoisse, l'inquiétude, le désarroi. Et moi, cette tension m'a fasciné. D'autant plus que, pour dire la vérité, moi, j'ai commencé par aimer Épicure. Quand j'avais 18 ans, je découvre les trois lettres d'Épicure. Je découvre Lucrèce aussi. Mais à l'époque, ce qui me touchait le plus, c'était la sérénité d'Épicure, la lumière d'Épicure, la douceur d'Épicure. À côté, Lucrèce me paraissait quand même très sombre, très angoissé, un peu fatigué. Eh bien, 50 ans plus
désabusé,
tard, c'est l'inverse.
Hein.
Aujourd'hui, j'admire toujours Épicure, mais Lucrèce me touche beaucoup plus parce que j'y reconnais quelque chose de ce que la vie m'a appris, à savoir qu'elle est difficile, qu'elle est angoissante, qu'elle est décevante, qu'elle est amère souvent. Voilà. Et donc, je suis passé d'une admiration à Épicure d'abord, à une affection pour Lucrèce aujourd'hui qui l'emporte encore sur l'admiration que j'ai pour Épicure. Faut ajouter un mot sur le docteur Logre. J'étais très content d'entendre sa voix. C'est la première fois de ma vie que j'entends sa voix.
Vous en parlez dans votre
livre.
C'est
quelqu'un qui est important parce qu'il a fait sa thèse de médecine sur Lucrèce. Voilà. Et il a fait une thèse qui est une analyse d'ordre. Il est psychiatre, donc une analyse psychopathologique de Lucrèce, et son diagnostic, c'est que Lucrèce est atteint d'une psychose maniaco-dépressive. Et donc, qui alterne des phases d'extrême dépression, de malheur, de souffrance atroce, et des phases d'exaltation
joyeuse. Ce qu'on appellerait
joyeuse.
Être bipolaire aujourd'hui.
Ce qu'on appelle une psychose bipolaire, effectivement. C'est d'ailleurs la même maladie que mon maître Louis Althusser, ce qui évidemment me touche aussi. Cela dit, il faut ajouter que le diagnostic du docteur Logre, il reste toujours à caution, parce qu'on ne peut pas faire un diagnostic sur quelqu'un uniquement à partir de ses textes. Mais c'est un diagnostic qui me paraît plausible, pas certain, mais plausible, parce qu'en effet, on trouve chez Lucrèce les deux des passages extrêmement sombres, extrêmement angoissés. Mmh. Rappelons par exemple, par anticipation, que la fin du De Rerum Natura, c'est la description de la peste d'Athènes, et donc des multiplications de cadavres, d'horreurs, d'amputations, de souffrances.
Mais c'est presque un peu gore même, hein ?
Presque un peu gore, en effet. Mmh. Alors qu'il y a d'autres moments, au contraire, où il chante une sérénité joyeuse et lumineuse qui ressemble effectivement à une espèce d'euphorie morbide, comme dirait aujourd'hui un psychiatre. Et donc, il se peut que le docteur Logre ait raison. En tout cas, il fait partie de ceux qui ont insisté justement sur cette dimension sombre, angoissée et angoissante de Lucrèce, au point que, pour lui comme pour certains autres, moi je n'ai pas vraiment de position, mais vous savez qu'il y a un texte de Saint Jérôme qui nous dit que Lucrèce s'est suicidée, empoisonnée par un philtre d'amour.
C'est un des seuls témoignages qu'on a sur Lucrèce.
Oui, on n'en sait rien. Peut-être que Saint Jérôme s'appuie sur un texte aujourd'hui perdu de Suétone, mais tout ça est un peu incertain. Et donc, depuis plus de 2000 ans, les commentateurs discutent pour savoir est-ce que Lucrèce s'est suicidée ou pas. La vérité, c'est qu'on n'en sait rien. Moi, ce que je... Et là, le docteur Logre pense que oui, bien sûr, parce que ça coïncide avec son diagnostic de psychose bipolaire ou maniaco-dépressive.
Surtout qu'on va entendre un texte, notamment sur la mort, tout au long, dans cette émission. C'est pas le premier, mais c'est le dernier que nous allons écouter. Il y a quand même une forme de tentation de la mort. Oui, on peut très bien le voir se suicider.
De la mort plus paisible que tout repos.
Non, mieux vaut mourir que mal vivre.
Je ne sais pas si c'est suicidé ou pas, mais disons que ça n'est pas impossible. Quand on lit Lucrèce, on voit qu'il y a une dimension d'angoisse, de mélancolie. Il n'est pas exclu qu'en effet, ça allait mener au suicide. Bon, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, bien sûr, c'est le De Rerum Natura. C'est l'œuvre qui est un chef-d'œuvre formidable.
Mais c'est important de dire qu'il y a quand même cette dimension psychologique quand on lit Lucrèce, puisqu'il s'adresse aux hommes, aux femmes qui le lisent, puisqu'il y a effectivement cette dimension angoissée, mélancolique, cette dimension aussi crue. On a parlé de scènes un peu gore avec les épidémies, mais aussi presque de colère, de polémique. Il ne comprend pas que les lecteurs et les lectrices n'avalent pas la pilule de l'épicurisme, ne veuillent pas en fait devenir épicurien. Il faut quand même le rappeler, ce poème, c'est quand même le poème d'un disciple d'Épicure qui certes, lui est angoissé alors que Épicure est lumineux, mais c'est quand même pour diffuser cette parole-là. Pourquoi ça lui tenait à cœur, sans faire de la psychologie pour le coup, mais pourquoi en fait il y a eu besoin de la diffusion de ce texte-là ? Pourquoi il fallait convaincre à tout prix les lecteurs et les lectrices ?
Mais d'abord parce qu'il déteste la religion.
Mais ça, c'est très bien religio. De le dire.
Voilà. Alors, certains traduisent religio par religion, d'autres par superstition. Ma conviction, c'est que Lucrèce déteste les deux.
Oui, la religion et la superstition pour lui.
Aux religions et aux religieux, les crimes innombrables qu'ils ont commis. Alors, le crime emblématique chez Lucrèce, c'est le meurtre d'Iphigénie, la fille d'Agamemnon, sacrifiée aux dieux, pour que les dieux, enfin, permettent au vent de se lever, pour que les Grecs puissent aller jusqu'à Troie. C'est raconté, bien sûr, par Homère. Et qu'on ait pu égorger une jeune fille, pour plaire aux dieux, pour Lucrèce, c'est un crime évidemment épouvantable. Et donc, il en est scandalisé. De même qu'il est scandalisé par la bêtise, parce qu'il y a des horreurs religieuses, et puis il y a des bêtises religieuses. Que les gens puissent croire qu'une éclipse, un tonnerre, ça soit un message des dieux, ça lui paraît d'une bêtise tellement crasse que, oui, ça l'énerve, ça le met en colère. Et donc, cette fureur irréligieuse qui est propre à Lucrèce, parce que chez Épicure, on voit une critique des religions, mais une critique toujours respectueuse, toujours pacifiée, comme est Épicure lui-même. Alors que chez Lucrèce, au contraire, la critique de la religion se fait vengeresse, colérique, agressive. Et c'est pourquoi, bien sûr, au XVIIIe siècle, pendant les Lumières, Lucrèce sera tellement admirée par les philosophes, comme on disait, c'est-à-dire par ce grand courant qu'on appelle les Lumières, courant de rationalisme, d'humanisme, qui s'oppose aux dictature religieuse.
Est-ce que c'est pour cette raison-là aussi, André Comte-Sponville, j'ai posé la question en début d'émission, qu'il faut continuer à ouvrir, à lire Lucrèce aujourd'hui ?
Écoutez, il faut toujours lire. Et il faut le dire d'autant plus que, comme vous l'avez vu, les récents chiffres qu'on a
le rapport
sur
du
le degré
CNL.
De lecture
oui.
des Français sont tout à fait inquiétants. Donc oui, il faut lire.
Mais pourquoi Lucrèce en particulier ?
Il faut lire d'abord Épicure en particulier, et Lucrèce aussi par là même. Pourquoi ? Parce que de tous les philosophes de l'Antiquité, Épicure et Lucrèce sont ceux qui nous sont le plus contemporains. Parce qu'ils habitent un univers infini, illimité, comme le nôtre. Un monde fini et mortel, comme le nôtre. Il n'y a pas beaucoup de philosophes qui pensent la fin du monde comme inéluctable. Dans une période de crise, de bouleversement, comme la nôtre, du temps d'Épicure, c'était la Grèce d'après la mort d'Alexandre, qu'on appelle la période hellénistique, période de décadence. Les héritiers d'Alexandre se disputent son empire militairement, donc c'est une période de guerre civile. De même, du temps de Lucrèce, qui est la fin de la République romaine, juste avant l'Empire, là aussi, période de guerre civile, si vous voulez. Et donc, voilà, il habite un univers illimité comme le nôtre, un monde fini et mortel comme le nôtre, soumis au hasard et aux crises comme le nôtre, et enfin il va mourir comme nous tous. Voilà. Et donc pour tous ceux qui vivent un monde sans religion, et, or nous sommes de plus en plus nombreux aujourd'hui à nous passer de religion, oui, il y a le sentiment qu'Épicure et Lucrèce sont nos contemporains, beaucoup plus que Platon, beaucoup plus qu'Aristote, que j'admire évidemment, mais qui ne sont pas nos contemporains, et beaucoup plus que les stoïciens. Vous savez, Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, écrit dans ses carnets « Soit la providence, soit les atomes ». Donc, ou bien le stoïcisme, la providence, qui croit en un dieu-monde, un destin providentiel, ou bien l'atomisme, le hasard. Mais qui aujourd'hui peut croire en la providence? Eh bien, tous ceux qui ne croient pas en la providence, ils lisent Lucrèce comme étant un frère, finalement. C'est ce que dit Jacques Brunswick, un très grand historien de la philosophie. Dans un article sur Lucrèce, il explique que Lucrèce a sa place dans un livre d'histoire de la philosophie, qu'il a sa place aussi dans un livre d'histoire de la littérature, de la poésie. Mais si on faisait un livre qui rassemble nos frères en humanité, Lucrèce y aurait sa place aussi, et ils ne seraient pas nombreux à en faire partie, dit Jacques Brunswick. Eh bien, ce sentiment-là, à la fois un vrai philosophe, un immense poète et un frère en humanité, ce sont des raisons fortes de lire Lucrèce aujourd'hui.
Et puis, il y a un vrai plaisir de lecture chez Lucrèce, à la différence quand même peut-être d'un Aristote ou d'un Platon. C'est un poème, en fait. Donc, il y a quelque chose de qui est beau, qui nous transporte dans les descriptions, dans la manière dont il parle même des odeurs ou même du sperme, quelque chose de cru, quelque chose d'imagé, qui fait qu'effectivement, on se sent proche de Lucrèce. Est-ce que vous avez l'impression, André Comte-Sponville, qu'à travers ces six chants, qui parlent tout autant de la nature des choses que des choses naturelles, que de l'union de l'âme et du corps, il y a quand même une forme de, au-delà du plaisir, mais de remède à ce que nous dit Lucrèce, cette angoisse qu'il a, est-ce qu'on peut en être consolé grâce à lui? Et je choisis le terme consolé à raison avec
oui,
vous.
Oui, vous savez que j'aime peu la consolation.
Voilà.
Mon livre s'appelle L'inconsolable et autres impromptus. Est-ce que Lucrèce console? Je ne dirais pas ça, mais il apaise. Voilà, il apaise.
Quelle différence vous faites entre les deux?
La consolation, ça supposerait qu'il n'y a plus de cause de chagrin, à la limite, ou du moins que le chagrin va finir par disparaître à force de consolation. Alors que Lucrèce, il est en gros inconsolable, et autrement dit, c'est un auteur tragique. Et finalement, la grande différence entre Épicure et Lucrèce, elle est là, c'est ce qu'avait bien vu Clément Rosset, c'est que Lucrèce est un penseur tragique, Épicure n'est pas un penseur tragique, parce que du point de vue de la sagesse d'Épicure, tout ce qui relève de l'angoisse, de la souffrance, est comme rien. Et c'est la fin de la lettre à Ménécée, donc d'Épicure, les dernières lignes sont les lignes suivantes, Épicure écrit à son disciple Ménécée « Médite mes leçons jour et nuit, et tu ne seras jamais troublé, ni à l'état de veille, ni même en songe. Mais tu vivras comme un dieu parmi les hommes, car il ne ressemble en rien à un être mortel, celui qui vit parmi des biens immortels. » Autrement dit, Épicure, il est sauvé. Il n'y a plus de tragique. Pour lui, le tragique, c'est pour les autres, ceux qui vivent comme des mortels, mais lui, il vit comme un dieu parmi les hommes. Eh bien, Lucrèce, évidemment, n'a jamais prétendu vivre comme un dieu parmi les hommes. Et c'est pourquoi Épicure me faisait davantage rêver quand j'avais 17-18 ans, quand je le découvrais.
Vous vouliez devenir un dieu, oui.
Et c'est pourquoi aujourd'hui, Lucrèce parle davantage à mon expérience. Vous doutez bien que je n'ai aucunement l'ambition de n'être jamais troublé, ni de vivre comme un dieu parmi les hommes.
Comment doit-on lire? On va écouter tout de suite un texte de Lucrèce, mais comment pour les auditeurs, auditrices, on prend en fait ce long poème? Comment on peut le lire en entier? On lit comme un roman? On lit par le début? Il vaut mieux lire, parce que je l'ai dit, il y a six chants. Les deux premiers sont consacrés vraiment à la nature des choses, c'est vraiment question d'atomes, d'univers, de vide. Les chants 3 et 4, c'est vraiment sur l'homme. Alors voilà, là on se sent peut-être plus concerné, et la fin, on est plutôt sur les choses naturelles, phénomènes météorologiques, les épidémies. On commence par quoi?
On fait comme on veut, bien sûr. Moi, je suis pour les lectures libres, mais oui, il faut dire un mot quand même sur le plan du Rerum Natura. Donc, les deux premiers chapitres, vous avez raison, portent sur la physique fondamentale. Donc, Lucrèce explique, à la suite d'Épicure, que tout ce qui existe est composé exclusivement d'atomes et de vide. D'atomes, c'est-à-dire de grains de matière insécables. On sait aujourd'hui, nous, que les atomes ne sont pas insécables, mais à l'époque, c'était déjà une anticipation formidable que d'expliquer tout par des atomes et du vide. Le deuxième livre explique non plus seulement l'ontologie de l'atomisme, mais la dynamique de l'atomisme, c'est-à-dire les mouvements. Pourquoi est-ce que les atomes sont en mouvement dans le vide infini? Le troisième livre porte sur la mort. Le quatrième livre sur la connaissance et les illusions de la connaissance. Et donc sur l'amour, puisque pour Lucrèce, comme pour Épicure, la passion amoureuse relève de l'illusion.
Ah, c'est des très belles pages. Franchement, pour les auditeurs, il faut les lire.
Le livre 5 porte sur l'histoire du monde et de l'humanité, où il y a une espèce d'anticipation du darwinisme que je trouve d'une modernité hallucinante, et en même temps une pensée du progrès. C'est-à-dire que cet homme sombre, angoissé, en même temps est sensible au fait que l'histoire humaine avance et que c'est plutôt moins pire aujourd'hui que ça ne l'était au tout début de l'histoire de l'humanité. Et puis le dernier livre, le sixième chant, porte ce que les Épicure appellent les météores, dans tout ce qui se passe dans le ciel, les phénomènes mystérieux, la foudre, les éclipses, etc. Et se termine donc par cette description apocalyptique de la peste d'Athènes. Alors, ajoutons que la plupart des commentateurs s'accordent pour penser que le texte est inachevé et que sans doute, après ce passage très gore, très sombre sur la peste d'Athènes, Lucrèce aura ajouté une fin un peu plus sereine, peut-être en évoquant l'infinie sagesse des dieux.
Pas un happy end non
ce
plus,
qui n'est j'imagine. Pas, ce qui n'est pas certain, parce qu'en vérité, autant je crois vraiment qu'Épicure croyait aux dieux, alors les dieux d'Épicure, c'est-à-dire des dieux qui ne s'occupent jamais de nous, qui ne se soucient aucunement des humains, qui sont dans les intermondes, qu'il est inutile de prier.
Qui n'interfèrent en tout cas pas dans les affaires humaines.
Nullement. Mais je pense qu'Épicure y croyait vraiment. Alors que Lucrèce, il ne le dit pas expressément, mais on a le sentiment que pour lui, ces histoires de dieux, ce sont des inventions humaines, au fond. Et que, donc je ne suis pas certain qu'il aurait terminé par une évocation des dieux. Bon, on ne le saura jamais, mais toujours est-il que ça se termine par la description de la peste d'Athènes et donc par le pire du pire.
Alors on ne va pas commencer par le début, André Comte-Sponville. Néanmoins, on va commencer par le début d'un chant. C'est le chant 4, c'est dans votre traduction, il y rend hommage à Épicure, bien évidemment.
Je parcours les contrées inexplorées des muses que nul pied ne foula. Je bois aux sources vierges. J'aime cueillir des fleurs nouvelles, inconnues. En tressé pour ma tête une couronne unique dont les muses jamais n'ornèrent aucun front. Grandes sont mes leçons. Je viens briser les chaînes de la religion, libérer les esprits. Sur un sujet obscur, que de vers lumineux je compose qui nimbe tout de poésie. Si j'ai pris ce parti, ce n'est pas sans raison. Lorsque les médecins destinent aux enfants la répugnante absinthe, ils déposent d'abord sur le bord de la coupe un miel blond et sucré. L'enfant imprévoyant, tout au plaisir des lèvres, avale jusqu'au bout le très amer remède. Dupé, mais pour son bien, il guérit peu à peu. Ainsi fais-je à présent. Je sais notre doctrine trop triste pour celui qui ne fait qu'y goûter. La foule horrifiée la fuit. C'est pourquoi moi, je vais te l'exposer dans la langue des muses, comme tout imprégné du doux miel poétique. J'ai voulu par mon chant séduire ton esprit, le temps qu'il ait compris le seul remède utile, connaître entièrement la nature des choses.
Nous consacrons toute cette semaine au poème de Lucrèce de la nature. Les premiers vers du chant 4 lus ici par Anaïs Isbert. Nous ouvrons cette semaine avec vous, André Comte-Sponville. Et c'est vous qui nous avez indiqué ce texte qui donne d'ailleurs le titre à votre ouvrage que vous consacrez donc à ce poème de Lucrèce. Il y a le miel de Lucrèce et il y a l'absinthe de l'épicurisme. Alors tout de suite, une chose que je ne comprends pas, André Comte-Sponville, comment pouvez-vous nous présenter Lucrèce comme quelqu'un d'angoissé, de mélancolique, alors que c'est lui-même qui apporte le miel pour faire passer la pilule épicurienne.
Et parce qu'il a besoin de cette pilule, et la pilule de sérénité hein, que représente l'épicurisme, on a d'autant plus besoin qu'on est davantage angoissé. Hein. C'est un petit peu comme si vous demandiez à un déprimé pourquoi il prend des antidépresseurs, ou un anxieux pourquoi il prend des anxiolytiques. Mais justement parce qu'il est déprimé, parce qu'il est anxieux. Autant dit, il y a une dimension thérapeutique de la philosophie. Alors c'est un peu un lieu commun des sagesses antiques qui pensent la philosophie comme la médecine de l'âme. Autrement dit, ce que la santé est au corps, la sagesse l'est à l'âme, et puisque le but de la philosophie c'est la sagesse, la philosophie serait donc la médecine de l'âme. Ce qui chez Épicure prend une formule très importante, qu'on appelle le tétrapharmakon. Tétrapharmakon en grec, ça veut dire quoi? C'est le remède à quatre ingrédients. Et en effet, ces quatre ingrédients qu'on a trouvés gravés sur les murs d'une villa épicurienne se résument en quatre propositions. Mmh. Il n'y a rien à craindre des dieux, il n'y a rien à craindre de la mort, on peut atteindre le bonheur, on peut supporter la douleur. Voilà les quatre ingrédients de la sagesse épicurienne. Et donc, effectivement, Lucrèce les prend comme tels. Et donc, c'est pour ça qu'il prend cette métaphore du miel et de l'absinthe. Alors, un mot sur ce livre, donc, que j'appelle en effet « Le miel et l'absinthe », sous-titré « Poésie et philosophie chez Lucrèce ». Parce que, en vérité, au départ, c'était une conférence qu'on m'avait demandé pour les milliers de la poésie à Bruxelles, en Belgique, sur Lucrèce, poète. Et donc, ça m'a obligé à rentrer dans le détail de l'écriture. Moi, je considérais plutôt au départ Lucrèce comme philosophe dans mes autres textes. Mais là, je me suis coltiné avec le challenge, si on peut dire, de parler aussi de sa poésie. Et donc, c'est pourquoi j'ai traduit moi-même, alors pas l'ensemble du Deorum Natura, mais plusieurs centaines de vers en alexandrin blanc, parce que Lucrèce est un poète et je crois qu'il est bon de lui donner une forme, si possible, poétique. Et c'est pourquoi je me suis permis de retraduire, en m'appuyant sur les traductions déjà existantes, bien sûr, de retraduire plusieurs centaines de vers de Lucrèce. Et ce qui me frappe dans ce passage-là, donc revenons sur cette métaphore du miel et de l'absinthe. Ce qu'explique Lucrèce, c'est que l'absinthe, à l'époque, c'est un remède médicinal, très amer. Et donc, les enfants malades à qui on veut le faire boire, c'est comme aujourd'hui qu'on veut leur faire boire de l'huile de foie de morue, ils font la grimace.
Je crois qu'on le fait plus ils trop quand même.
On ne le fait plus.
mais on voit très bien l'image.
Et donc, les médecins avaient trouvé une ruse, un artifice qui consistait à enduire le bord de la coupe, on dirait le bord du verre aujourd'hui, de miel. Et donc, le gamin pose ses lèvres sur la coupe, il sent la douceur du miel et donc, dupé mais non victime, comme dit l'une des traductions de ce même passage, il finit par avaler l'amer breuvage qui lui fait du bien, mais que ça suppose qu'il surmonte le dégoût que ça inspire. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que pour Lucrèce épicurien, l'épicurisme est cet amer breuvage.
Exactement.
Alors
qu'on le présente comme quelque chose de lumineux, de l'ordre du bonheur. Vous l'avez dit, le tétrapharmakon.
C'est ça qui est très étonnant. C'est que, en gros, Épicure nous dit, la mort n'est rien, ni pour les vivants, ni pour les morts. Mmh. Elle n'est rien pour les vivants puisqu'ils sont vivants, elle n'est rien pour les morts puisqu'ils ne sont plus. Mmh. Et donc, il n'y a rien à en craindre, puisque la mort c'est le néant c'est rien, avoir peur de la mort c'est avoir peur de rien, c'est idiot. Et donc ça, c'est en principe une bonne nouvelle. Sauf que si on vous dit on va tous mourir et après il n'y a rien, vous comme moi, on ne le vit pas tout à fait spontanément une bonne nouvelle. Donc Lucrèce voit bien que ça nous fait peur. On préférerait ne pas mourir. On préférerait au fond, alors surtout dans l'univers chrétien, un paradis plutôt que le néant. Et donc c'est tout le paradoxe que cette douceur de la sagesse épicurienne, pour le commun des mortels, c'est quelque chose d'extrêmement amer, d'extrêmement triste. Moi, j'ai trouvé l'équivalent récent, pour me faire mieux comprendre, dans une formule d'Alphonse Allais, que j'ai découvert récemment et qui me réjouit à chaque fois que j'y pense ou que je la cite. Donc, Alphonse Allais, humoriste un peu oublié du tout début du XXe siècle. Alphonse Allais écrit quelque part « Nous ne nous prenons pas au sérieux. Il n'y aura aucun survivant. » Ça vous fait sourire, et quand j'en parle dans mes conférences, ça fait sourire tout le monde.
Oui.
Ce qui est paradoxal, puisque en principe, c'est une mauvaise nouvelle, on va tous crever. Mais en pratique, on sent une espèce d'apaisement qui vient avec l'acceptation du néant ultime. Eh bien voilà, Lucrèce travaille sur cette ambiguïté. Il veut nous convaincre de ce qui, pour Épicure, est une bonne nouvelle. La mort n'est rien, il n'y a rien à en craindre. Mais c'est bien que pour nous, le néant, ça nous angoisse. Et donc, on vit cette bonne nouvelle comme une mauvaise nouvelle. Et donc, pour cela, il robe la coupe du miel de la poésie. Il met tout ça en verre pour faire passer la pilule. C'est exactement ça, la poésie lucrétienne. Ça sert à faire passer la pilule amère de l'épicurisme. Sauf qu'elle est amère dans un premier temps. L'idée épicurienne, et que Lucrèce partage, c'est qu'au bout du compte, ça redeviendra effectivement une pilule de douceur, une pilule de sérénité.
Mais il dit même plus que ça, Lucrèce. Il dit « j'ai voulu par mon chant séduire ton esprit ». Il y a quelque chose de l'ordre de la séduction, parce qu'il n'y a pas que la peur de la mort qui est irrationnelle pour les hommes et pour les femmes. C'est aussi, et il le dit très bien dans le texte, la religion qui peut laisser penser que la mort est quelque chose d'angoissant. Et c'est là où on a quand même une dimension tout à fait poétique, tout à fait séduisante avec le miel, et on l'a entendu dans cette lecture, mais il y a aussi une dimension vindicative. Je viens briser les chaînes de la religion, libérer les esprits sur un sujet obscur que de vers lumineux je compose qui nimbe tout de poésie. Là, en fait, il ne fait pas s'attaquer qu'à la peur des hommes, il s'attaque aussi à la religion qui laisse penser qu'il faudrait avoir peur de puissance qui les dépasse.
Voilà, c'est ça, c'est que les humains inventent des dieux parce qu'ils ont peur, et la peur des dieux s'ajoute à la peur première des humains. Et donc, de peur en peur, on vit dans l'angoisse. Voilà. Et donc, il y a cette espèce de fureur irréligieuse chez Lucrèce. Encore une fois, ça pourrait être du Dolbach ou du Diderot. Hein, quand il écrit « Je viens briser les chaînes de la religion, libérer les esprits », c'est le programme des Lumières. Mais c'est au 1er siècle avant Jésus-Christ, si vous voulez. Donc, ça, d'où ce poids, de cette violence et cette polémique irréligieuse qui fait partie du charme de Lucrèce, mais qui nous touche d'autant plus qu'on sent aussi qu'il partage nos angoisses, qu'il partage nos mélancolies, qu'il partage nos chagrins. Et donc cette espèce
Vous pensez que c'est une lutte aussi pour Lucrèce ?
C'est une lutte, et alors, si on en croit le docteur Legre, une lutte et une alternance. Donc il y a une phase d'hypomanie, comme disent les psychiatres, donc de gaieté presque exagérée, et puis il y a les phases de dépression. Mais au fond, sans être bipolaire, on a tous nos moments lumineux et nos moments plus sombres. Mais voilà, Lucrèce est sans doute moins sage qu'Épicure. D'ailleurs, il ne prétend pas être un sage, mais il est par là même plus humain. Et il se trouve que ni vous ni moi, nous ne sommes des sages, mais nous sommes des humains. Et c'est pour ça que Lucrèce, me semble-t-il, nous touche davantage que son maître Épicure.
Puis à la fin de cet extrait, on a entendu André Comte-Sponville. Le temps qu'il est, j'ai voulu par mon chant séduire ton esprit, le temps qu'il ait compris le seul remède utile, connaître entièrement la nature des choses. Donc, d'où le titre de ce poème. Qu'est-ce que ça veut dire, connaître la nature des choses? Ça veut dire que le programme de Lucrèce, à la différence de celui d'Épicure, qui était quand même, on va plutôt dire, un programme éthique de maîtrise de ses passions, de régulation des plaisirs, un programme épistémologique?
Alors, chez Épicure, il y a les deux, ou plutôt il y a les trois. C'est-à-dire que l'épicurisme distingue trois domaines dans sa philosophie, de même d'ailleurs que les stoïciens. Il y a ce qu'ils appellent la physique, la théorie de la nature. Il y a ce qu'ils appellent la canonique, la théorie de la connaissance, la logique. Et enfin, il y a l'éthique, l'art de vivre. Mais il y a une espèce d'illusion rétrospective, comme on a perdu le grand texte de physique d'Épicure, qui est un périphuséos de la nature, en 37 livres, mais il n'en reste rien.
Alors qu'inversement, En 37 livres.
Alors que le livre de l'Antiquité, 37 rouleaux peut-être de manuscrits. Mais écoutez, un très très gros livre que nous avons perdu, mais que Lucrèce, lui, sur toute vraisemblance, avait lu et relu, si vous voulez. Alors qu'à l'inverse, on a gardé trois lettres d'Épicure, à Hérodote, à Pythoclès, à Ménécée, mais la plus belle des trois, c'est la lettre à Ménécée, qui est une lettre qui porte sur l'éthique. Et donc, rétrospectivement, on a un peu le sentiment qu'Épicure est d'abord un moraliste, un spécialiste de l'éthique. Mais non, son grand livre, il porte sur la physique. Et de ce point de vue, je crois que Lucrèce est conforme à l'esprit d'Épicure. Il faut connaître pour cesser d'avoir peur. Alors, connaître quoi?
Voilà, et puis ça veut dire quoi, connaître?
Connaître, ça veut dire qu'il n'y a pas lieu de croire, il n'y a pas lieu de craindre. Tout n'est qu'atome et vide. Une éclipse. Alors,
Lucrèce, ça veut dire qu'il y a des faits?
Lucrèce, comme Épicure, pour le détail des phénomènes, adopte ce qu'il appelle la pluralité des hypothèses. Et donc, il va proposer pour une éclipse 3, 4 hypothèses différentes, mais toutes rationalistes, toutes matérialistes, et qui ont en commun, mais tu vois, les dieux n'y sont pour rien. Ça veut rien dire, ça n'a pas de sens, c'est pas la peine de l'interpréter. Pareil pour la foudre. Tu peux t'en protéger physiquement, évite de te balader sous un arbre quand il y a des éclairs, mais Il n'y a rien de surnaturel. Voilà. Et donc, il faut faire de la physique, au sens épicurien du terme, de connaître la nature, pour comprendre que la nature est le tout, et que donc, surnaturel, ça n'existe pas. L'ensemble du surnaturel est un ensemble vide. Et donc, voilà, c'est ça la leçon de paix. Et donc, connaître la nature, ça n'est pas expliquer le détail des phénomènes. L'Ukraine n'en a pas les moyens, à l'époque, personne ne les avait. Mais c'est comprendre qu'il n'y a rien à comprendre. Que la nature n'est pas du côté d'un sens secret, n'est pas du côté d'un mystère. Ce ne sont que des atomes et du vide, sans aucune intention, sans aucun destin, sans aucune finalité. Il n'y a que le hasard et la nécessité.
Et j'ai une question à vous poser, André Comte-Fonville. Est-ce que vous pensez que ça marche? Parce que moi, je suis tout à fait d'accord avec cette idée de connaître peut apaiser, connaître permet, la raison permet de lutter contre les croyances. Mais il y a une différence entre savoir, comprendre et percuter, si je puis dire. Vous voyez ce que je voulais dire?
Oui, mais non, moi je crois que ça marche tout à fait. D'ailleurs, je ne connais personne.
On peut savoir et pourtant avoir peur.
Oui, mais je ne connais personne qui ait peur des éclipses. Personne. Je ne connais personne qui ait peur de la foudre, sinon au sens très raisonnable d'avoir peur, il faut s'en méfier, c'est dangereux. Mais personne qui voit un message des dieux. Autrement dit, l'Ukraine a gagné. Personne ne pense qu'un tremblement de terre, ça a un sens, que ça a une finalité. C'est le hasard des particules, si vous voulez. Et donc, non, je pense que l'Ukraine a gagné. Il a rendu le monde à son innocence, ce que Nietzsche appellera l'innocent du devenir. Ben voilà, c'est le devenir de l'Ukraine.
Ça, c'est intéressant, ce qui veut dire que, en fait, l'apaisement vient du fait qu'on dépouille toute la nature d'une forme d'intentionnalité, d'une forme de destin qui nous tomberait dessus. Alors, et face auquel on ne pourrait rien.
Connaître, c'est le contraire d'interpréter. Voilà. Interpréter, on se demande qu'est-ce que ça veut dire, une éclipse, lunaire, qu'est-ce que ça veut dire. Et donc on a peur du message qu'on imagine derrière. Si tu connais les causes de l'éclipse ou du tonnerre, il n'y a plus à interpréter. Mais souvent arrivé de penser qu'il faut avoir le même usage de la psychanalyse, c'est-à-dire qu'on interprète quand on ne connaît pas. Et une fois qu'on connaît, il n'y a plus rien à interpréter. Et donc,
tout le problème, c'est que c'est difficile de connaître l'inconscient.
À ce moment-là, comme dit Winnicott, la cure est finie.
Ah oui, mais tout le problème, c'est que c'est difficile de connaître l'inconscient.
Oui, mais voilà, une fois qu'on accepte ce le peu qu'on en a connu, il y a un moment où il faut arrêter d'interpréter parce qu'il faut commencer à vivre tout de bon. Et voilà, et cette idée que la sagesse commence au-delà du sens. La sagesse commence quand on a cessé d'interpréter. Vous savez ce que disait le docteur Le Riche au 19e siècle ou tout début 20e siècle? La santé, c'est la vie dans le silence des organes. Il m'est arrivé
Repris
de dire que la sagesse... C'est la vie dans le silence de l'esprit. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire le silence des organes? Vous vous réveillez le matin, vous avez 38,2. Ça veut dire quelque chose. Quoi? Je n'en fais rien, je ne suis pas médecin. Mais ça veut dire quelque chose. Vous vous réveillez le matin, vous avez 36,6. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Même pas vous êtes en bonne santé, parce qu'on peut être très gravement malade et avoir 36,6 au réveil. Ça ne veut rien dire. Et donc, il n'y a plus à interpréter. Mais c'est ce qu'on appelle la santé, précisément. Eh bien, Lucrèce nous met dans la nature comme celui qui au réveil a 36,6 et se dit, il n'y a rien à interpréter. Mais même quand il a 38,2, il se dit, c'est pas les dieux qui m'en veulent, c'est un microbe, c'est un virus, ce que sais-je. Allons plutôt voir un médecin. Vous voyez? Et donc, ça, c'est vraiment profondément l'idée des Lumières, comme on dira au 18e siècle, c'est-à-dire jouer la connaissance contre la superstition, jouer la vérité contre le sens, jouer la nature contre la religion.
Qu'il est doux quand les vents lèvent la mer immense, d'assister du rivage au combat des marins. Non que l'on jouisse alors des souffrances d'autrui, mais parce qu'il nous plaît de voir qu'on y échappe. Doux aussi, lors des grands carnages de la guerre, de regarder de loin les armées dans la plaine. Mais rien n'est aussi doux que d'habiter les monts fortifiés du savoir, citadelle de paix, d'où l'on peut abaisser ses regards vers les autres, les voir errer sans trêve, essayant de survivre, se battant pour leur rang, leur talent, leur noblesse, s'efforçant nuit et jour par un labeur extrême d'atteindre des sommets de pouvoir, de richesse. Misérables esprits des hommes, cœurs aveugles, dans quelle obscurité, dans quels périls absurdes se consument pour rien leur presque rien de vie. N'entendez-vous donc pas ce que crie la nature? Que veut-elle sinon l'absence de douleur pour le corps et pour l'âme un bonheur pacifié, délivré des soucis, affranchi de la peur? Tu peux bien regarder tes légions parader, jouer la comédie bravache de la guerre avec tes cavaliers et tes troupes auxiliaires, tous aussi bien armés, tous aussi belliqueux. Tu peux bien déployer ta flotte en haute mer. Crois-tu par ce spectacle effrayer tes fantômes? Faire mourir de peur ta crainte de la mort? Crois-tu trouver en toi la paix, la liberté? Espoir absurde et vain. L'angoisse, les soucis ne craignent ni les coups, ni le fracas des armes. Ils hantent aussi bien les riches, les puissants, sans respect pour l'éclat de l'or ou de la pourpre. La raison seule en nous peut les mettre en déroute. Sans elle, notre vie n'est qu'un combat obscur. Nous sommes des enfants qui tremblent et s'effraient de tout dans une nuit aveugle. En plein soleil, parfois, nous redoutons des dangers aussi vains que ceux qu'ils ont rêvé et croient voir s'approcher. Ces ténèbres de l'âme, il faut que les disperse, non les traits du soleil ni la clarté du jour, mais la nature seule, observée et comprise.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
Cet extrait du deuxième chant de la nature de Lucrèce, lu par Anaïs Isbert, avec ces deux idées, André Comte-Sponville, que l'on regarde souffrir les autres de loin ou qu'on se lance dans le combat, on reste dans la souffrance, on ne parvient pas à y échapper. C'est un texte assez désabusé, d'où cette question, André Comte-Sponville. Si Épicure tend à nous faire aller vers le bonheur, vers quoi veut nous faire aller Lucrèce? La lucidité?
Non, vers la même chose, vers le bonheur, simplement, ça ne marche pas. Mais sinon, quand il dit, expliquons cette image, « Suave Mari Magno »,
c'est souvent le premier vers.
En latin, des premiers vers qui étaient devenus proverbiaux, y compris dans l'Antiquité.
Et pourquoi ça
a
autant marché?
Ce que Lucrèce explique, c'est que voilà, il y a un naufrage, vous êtes sur la rive, sur la plage, vous voyez les marins se battent, peut-être se noyer, qu'il est doux d'assister à ce spectacle. Alors, c'est très ambivalent, parce qu'on peut dire non, mais quel égoïsme, quelle dureté de cœur, aucune compassion chez Lucrèce. C'est pas ce qu'il veut dire. D'ailleurs, il dit non, c'est pas que ça soit agréable de voir les gens souffrir, mais c'est agréable de ne pas souffrir soi-même. Reconnaissons que quand nous regardons les horreurs de ce qui se passe en Ukraine ou à Gaza, il y a un peu de douceur. On a de la compassion pour les gens qui souffrent là-bas, mais on a aussi un peu de douceur de se dire qu'on en est, au moins pour l'instant, préservé. Donc c'est ça que veut dire Lucrèce. Or, le but, et je reprends ces deux vers, « Mais rien n'est aussi doux que d'habiter les monts fortifiés du savoir, citadelle de paix, d'où l'on peut abaisser ses regards vers les autres. » Donc le plus doux de tout, c'est d'être épicurien, c'est d'être un sage. Et donc il propose le même but qu'Épicure, l'ataraxie, l'absence de trouble, et l'aponia, l'absence de souffrance pour le corps. L'absence de trouble pour l'esprit, l'absence de souffrance pour le corps. Ce qu'Épicure appelle le bonheur, la sagesse, c'est bien le but de Lucrèce. Sauf que quand on lit Épicure, on a le sentiment qu'en effet, il l'a atteint.
C'est possible.
Oui, cette lettre, c'est à Idoménée, dont on n'a gardé qu'un fragment, où Épicure écrit donc à son disciple et ami, « Je t'écris en ce bienheureux dernier jour de ma vie. Je souffre atrocement d'une maladie des entrailles. Je souffre atrocement. » Mais je m'épanouis de bonheur au souvenir des conversations que nous avons eues ensemble. Alors, c'est une idée forte de l'épicurie, c'est que, bien sûr, il y a la souffrance physique, on ne peut pas toujours l'éviter, mais le sage est capable de contrebalancer la souffrance physique par le souvenir de moments heureux. Et c'est ce que dit Épicure. Et quand on lit ça, on a le sentiment que oui, il dit quelque chose de vrai, mais sauf que Lucrèce est incapable de ça. Quand il a mal, et comme dit Aragon, l'homme crie ou son fer le ronge, si vous voulez, et le rerum natura, c'est ça, c'est un homme qui crie parce que son fer le ronge. Son fer, c'est quoi? C'est la religion, d'où la fureur irreligieuse, c'est l'angoisse, d'où tous ces textes où il va passer des dizaines de vers à nous expliquer que la mort n'est rien et que donc il n'y a rien à en craindre. Mais oui, mais l'idée, on l'a compris, l'Ukraine, mais pourquoi t'en parles si longuement? Sinon, parce qu'en effet, comme toi, comme nous tous, tu as peur.
Donc c'est un aveu d'échec, ce poème.
C'est un aveu d'échec qui ne s'avoue pas tout à fait comme tel. Mmh. C'est un texte ambivalent. Voilà. Mais c'est ça, la poésie. Hein. C'est
donc, à défaut justement d'atteindre ce bonheur, ou en tout cas de nous faire laisser transparaître ce demi-aveu d'échec de « on ne peut pas atteindre le bonheur », est-ce que, malgré tout, Lucrèce nous dit « il y a une forme de sagesse » en deçà d'atteindre une forme positive du bonheur, une sagesse dont on devrait se satisfaire minimale,
non,
avec
ça,
une
c'est
absence.
Non, ça c'est moi qui le dis, parce que moi j'ai lu Montaigne, grand lecteur de Lucrèce.
Ce n'est pas le cas de Lucrèce.
Montaigne est l'auteur du XVIe siècle qui a le plus cité Lucrèce, plus qu'aucun autre auteur du XVIe siècle, et Lucrèce est l'un des deux, trois auteurs que Montaigne cite le plus. Et c'est Montaigne qui m'a aidé à comprendre que la sagesse d'Épicure, que Lucrèce prône sans être capable de l'atteindre, ce n'est qu'une illusion de plus. Voilà. Alors, j'ai souvent cité cette formule de Montaigne, ces choses tendres que la vie est aisée à troubler. Pourquoi ça m'a tellement frappé? Ben, c'est que l'ataraxie épicurienne, alors, ataraxia en grec, le A est privatif, donc littéralement ataraxia, entendu par ataraxie, ça veut dire absence de trouble. Et en effet, ce que promet Épicure, c'est une sagesse telle qu'on ne sera jamais troublé. C'est la fin de la lettre à Ménécée que j'évoquais tout à l'heure. Sauf que la vie et Montaigne m'ont aidé à comprendre que ça ne marche pas. Pourquoi ? Mais parce que c'est chose tendre que la vie est aisée à troubler. Autrement dit, dirait Montaigne à Épicure et à Lucrèce, c'est formidable, Épicure, ta sagesse, si on en était capable. Mais on n'en est pas capable, parce que c'est chose tendre que la vie est aisée à troubler. Et donc, Lucrèce est un peu dans l'entre-deux. Entre Épicure, qui croit absolument à sa sagesse et qui, au fond, peut-être même l'a vécu, tant mieux pour lui, moi j'ai rien à lui reprocher, et Montaigne qui n'y croit plus. Lucrèce y croit encore sans arriver à l'atteindre. Et c'est cette ambivalence-là qui signe la singularité du Dererum. Il y croit et il le vit pas. Et donc, il y a cette tension entre sa pensée de stricte orthodoxie épicurienne et sa sensibilité d'anxieux ou de maniaco-dépressif qui prend la parole, c'est le poète.
Mais ça modifie quand même insensiblement l'épicurisme, c'est-à-dire de partager les mêmes concepts, la même doctrine, mais quand même d'avoir une sensibilité, un point de vue, et donc ce demi-aveu d'échec d'atteindre le bonheur, ça fait quand même, enfin, c'est presque comme si on disait que en acte, l'épicurisme, ça ne fonctionnait pas. Ça ne marche pas.
Et donc, il faut dire à vos auditeurs, puisqu'il est question de philosophie, la philosophie, ça ne marche pas. Ça
c'est
échoue.
Pas thérapeutique.
Non, d'une part, ça va de soi. S'il y en a qui sont malades, allez voir un médecin ou un psy, comme vous voulez. Mais
je parlais des maladies là.
N'allez pas voir un philosophe. Mais la philosophie, au-delà même des pathologies. Ça ne marche pas au sens où il s'agit de chercher la sagesse, c'est-à-dire la sérénité, et de cette sérénité, au fond, nous sommes incapables. Alors ça, c'est Montaigne qui m'a aidé à le comprendre. Mmh. C'est pas Épicure, c'est pas Lucrèce, mais encore une fois, Lucrèce, oui, j'aime
l'annonce,
bien votre expression,
Lucrèce.
Un semi-constat d'échec. Voilà. C'est-à-dire qu'il se réclame d'une doctrine, il constate, sans tout à fait le dire expressément, qu'il est incapable de la vivre et il se débrouille comme il peut dans l'entre-deux. Mais attention, quand on dit que la philosophie, ça ne marche pas, c'est pas une raison pour ne pas philosopher.
Ah voilà, c'est ce que j'allais vous dire, parce que vous avez passé quand même votre vie à faire ça.
Toujours, parce que si on était des sages, on n'aurait plus besoin de philosophie. Et donc, si la philosophie réussissait, si vous voulez, on n'aurait plus besoin de philosopher, puisqu'on aurait atteint la sagesse dont elle est le but. Un peu comme un malade, il prend les médicaments, s'il est guéri, il arrête de prendre des médicaments. Mais non, mais ça, c'est un mythe. Nous ne sommes pas des sages, nous ne serons jamais des sages. Autrement dit, la philosophie échoue, mais ce n'est pas une raison pour ne pas philosopher. Parce que je vais vous dire, ce que j'aime, ce n'est pas la réussite, c'est la philosophie. Et mieux vaut une philosophie qui échoue, mais dans la lucidité, dans le combat, dans le travail, dans la raison, plutôt qu'une prétendue réussite qui vous installerait, je me demande par quel miracle, dans une espèce de sérénité indestructible. Ce que Lucrèce appelle les hauts lieux fortifiés par la science des sages. C'est très révélateur de penser la sagesse comme des hauts lieux fortifiés par la science des sages. D'abord, la sagesse n'est pas une science, mais pour lui, l'épicurisme est une certitude. Donc, il a raison d'en parler de son point de vue en tant que science. Et j'ai souvent opposé cette sagesse barricadée des épicuriens, les hauts lieux fortifiés par la science des sages, à ce que j'appelle chez Montaigne la sagesse du vent. C'est tout le contraire. Montaigne explique qu'il faut prendre modèle sur le vent, plus sage que nous, qui s'aime à bruire et à s'agiter, sans chercher la stabilité, la solidité, qualité non sienne. bien voilà, la citadelle fortifiée du savoir, elle cherche la stabilité, la solidité, mais c'est un contresens. Nous ne sommes incapables de ça. Il ne s'agit pas de s'enfermer dans une prétendue forteresse de sagesse. Il s'agit d'accepter l'impermanence, d'accepter les irrégularités du monde, du temps, de nos humeurs, accepter notre propre fragilité, prendre modèle non pas sur une sagesse fortifiée, mais sur la sagesse du vent.
Cette vie que tu vis, ce n'est qu'une vie morte. Tu perds dans le sommeil le plus clair de ton temps. Tu ronfles éveillé, comme hanté par tes songes. L'esprit toujours en proie à de vaines terreurs, sans comprendre jamais la cause de ton mal. On dirait un ivrogne accablé de misère, qui suit en titubant les erreurs de son âme. Si les hommes pouvaient, comme ils sentent en eux, le poids qui les accable, en connaître les causes, savoir d'où vient le mal. Pourquoi ce lourd fardeau leur oppresse le cœur ? Ils vivraient autrement que nous les voyons vivre, ignorant presque tous l'objet de leurs désirs, changeant toujours de place, cherchant un autre lieu pour jeter bas leur charge. Tel s'est précipité hors sa vaste demeure, lassé d'être chez lui, puis soudain y retourne, ne sentant aucun mieux à s'ennuyer dehors. Il presse le pas, court, harcèle sa monture, comme allant au secours de sa maison en flammes. Le seuil à peine atteint, il se met à bâiller, tombe en un lourd sommeil pour y chercher l'oubli, à moins qu'il ne se hâte à nouveau vers la ville. Chacun cherche à se fuir, personne n'y parvient. On reste prisonnier du moi que l'on déteste. On sent que l'on a mal, on ne sait pas pourquoi. Si on le comprenait, laissant là tout le reste, on se consacrerait à connaître les causes. Car c'est l'éternité qui est en jeu, non l'heure. Cette éternité dans laquelle les mortels passeront tout le temps infini de la mort. Pourquoi trembler si fort au milieu des alarmes ? Quel piètre amour de vivre à la vie nous enchaîne ? Tout mortel doit mourir tôt ou tard à son heure. Personne n'y échappe. À quoi bon résister ?
Extrait du troisième chant de La nature des choses de Lucrèce. Dans votre traduction, André Comte-Sponville, vous avez dit juste avant qu'on écoute le texte que Lucrèce et que vous, votre lecture de Lucrèce puis de Montaigne, vous poussait à dire qu'il fallait accepter l'impermanence des choses, accepter la fragilité de l'existence et peut-être d'être mortel. Mais là, dans ce texte, c'est plus qu'une acceptation, c'est presque une tentation du suicide, on pourrait dire, quand il dit « à quoi bon résister ?»
Du suicide, je n'en sais rien, rien ne l'atteste absolument, mais oui, une tentation du néant. Voilà, si la mort, c'est rien, il n'y a rien à en craindre, et ça sera la fin de toutes les souffrances. Comme dit Brassens dans une de ses chansons, tu n'auras plus jamais mal aux dents, c'est aussi bête que ça. Tu seras libéré même de la peur de la mort. C'est-à-dire que la mort, comme néant, nous guérira de la peur qu'elle nous inspire. Et c'est vrai que dans plusieurs passages, il y a cette espèce de, oui, comme une nostalgie, voire peut-être une impatience du néant, de la mort éternelle, comme dit Lucrèce, mors aeterna. Mais c'est le néant éternel, hein, c'est pas une vie après la mort, non, c'est le néant. Et quand la vie est très difficile, il y a des moments où l'idée de la mort devient sinon une consolation, du moins un apaisement, pour reprendre la distinction que j'évoquais tout à l'heure. Et il y a ça chez Lucrèce. Mais il y a aussi, c'est peut-être moi ce qui me touche le plus, la peinture de ce que Pascal, beaucoup plus tard, appellera le divertissement. Alors, c'est quoi le divertissement chez Pascal ? C'est toutes les occupations qu'on se donne, travail, loisirs, peu importe, pour oublier le peu que nous sommes, notre incapacité à être heureux et la mort qui nous attend. Voilà. Et bien, c'est ça que Lucrèce écrit quand il écrit, par exemple, « Tel s'est précipité hors sa vaste demeure, lassé d'être chez lui, puis soudain y retourne, ne sentant aucun mieux à s'ennuyer dehors. Il presse le pas, court, harcèle sa monture, comme allant au secours de sa maison en flammes. Le seuil à peine atteint, il se met à bâiller, tombe en un lourd sommeil pour y chercher l'oubli, à moins qu'il ne se hâte à nouveau. » Vers la ville. Chacun cherche à se fuir, personne n'y parvient. On reste prisonnier du moi que l'on déteste, on sent que l'on a mal, on ne sait pas pourquoi. Là, c'est vraiment l'univers pascalien typique. Voilà, on fuit. On se fuit soi, on fuit l'idée de la mort, et nous sommes séparés de la vie, absurdement, par la crainte du néant.
Et on cherche à se divertir, on pourrait presque relire tout le texte hein, d'ailleurs, André Comte-Sponville, parce que vraiment, même dès le début, quand il dit « tu ronfles éveillé comme hanté par tes songes », on y retrouve une description parfaite de ce qui nous caractérise aujourd'hui quand on s'affaire, quand on sort, quand on veut rentrer aussi abruti de fatigue. C'est peut-être là qu'il faut revenir. Je suis désolée pour les auditeurs auditrices, je vais faire un petit retour en arrière sur le texte d'avant. Il y a cette phrase à la fin du texte précédent où Lucrèce dit « mais la nature seule, observée et comprise, pourrait en fait disperser tous les ténèbres ». C'est en latin « sed naturae species ratioque ». Là, ça veut dire qu'il y a le divertissement où on s'abrutit. Et puis, il y a une autre manière, en fait, de ne pas se divertir, c'est d'affronter les choses et de regarder la nature seule, de l'observer.
Naturae species ratioque, naturae la nature, species l'aspect, le visage, donc contempler, observer la nature, ratioque, comprendre. Mais comprendre encore une fois qu'il n'y a rien à comprendre au sens d'un sens, qu'il y a simplement à connaître les causes. Donc, comprendre par les causes, c'est-à-dire expliquer, et non pas chercher un sens. Et oui, il s'agit de contempler la nature et de voir qu'il n'y a aucun sens derrière, qu'il suffit d'en profiter. Vous savez, quand on raconte que Hegel, traversant les Alpes, arrivant au pied des Alpes, il tombe devant cet immense spectacle, il a simplement dit « c'est ainsi ». Pour une fois, Hegel n'interprétait pas. Il ne cherchait pas le sens, il se contentait de contempler. C'est une leçon de sagesse, c'est ce qu'on appelle en Orient, c'est une traduction en français, l'inciter. Comprendre que c'est ainsi. Voyez. Eh bien, Lucrèce, il est comme ça. Donc, il faut savoir contempler la nature, l'observer. Oui, c'est ainsi. Oui, il y a de la foudre.
Mais
oui.
Ne pas y être indifférent, parce qu'on peut aussi regarder, dire c'est ainsi, et puis bon, on trace son chemin et
non,
on s'en fiche.
Il faut s'en méfier quand c'est dangereux, dans le cas de la foudre. Il faut en profiter quand c'est agréable. Il y a un très beau passage où il décrit les amis allongés sur l'herbe, au soleil ou à l'ombre d'un grand arbre, profitant de la vie. Il faut savoir profiter de la vie, parce que rappelons quand même que l'épicurisme est un hédoniste. Un hédoniste, ça veut dire quoi? Hédoné en grec, c'est le plaisir. Ça veut dire que pour un épicurien, le plaisir est le souverain bien. Plaisir des corps, manger, dormir, boire, faire l'amour, plaisir de l'âme, l'amitié, la philosophie. Et c'est ça le but pour Lucrèce aussi. Il y a des passages où il chante en effet le plaisir, illustré dans son poème par Vénus, déesse de la sensualité.
Enfin, on n'y croit quand même pas trop.
On n'y croit pas trop à Vénus, mais on croit pas mal à la sensualité. Et là, vous en parlerez à d'autres émissions, mais il faut rappeler que la critique de la passion amoureuse qu'on trouve chez Lucrèce est conjointe avec une apologie de la liberté sexuelle, ce qu'il appelle la Vénus vagabonde. Donc, plutôt que d'être amoureux d'un seul homme ou d'une seule femme, ce qui va te vouer à l'angoisse, à la tristesse, au chagrin, à la
jalousie,
déception,
ouais.
Fais l'amour librement, si possible amicalement, avec les hommes ou les femmes que tu désires, si vous voulez. Donc cette dimension hédoniste, elle existe bien.
Mais ça, c'est pas du divertissement pascalien ?
C'est du divertissement pascalien si on fait ça pour oublier qu'on va mourir. Donc si vous faites l'amour pour oublier que vous allez mourir, c'est du divertissement pascalien. Si vous faites l'amour parce que c'est bon de faire l'amour, surtout si vous le faites avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, c'est-à-dire un ami, mais dont vous n'êtes pas amoureux. Donc, sans possessivité, sans jalousie, ce que Lucrèce appelle joliment la pura voluptas, le pur plaisir. Voilà. Mais ça, c'est formidable. Et je pense que Lucrèce, par moment, l'a vécu. Mais bien sûr, il n'oublie pas pour autant qu'il va finir par mourir. Et au fond, quoi qu'il en dise, il préférerait pas.
Je me lève comme tous les jours, mais c'est dur. J'ai l'impression de marcher sur les murs. Je donnerais toute ma fortune pour un deux pièces cuisine dans la lune. J'ai envie de me noyer dans mon bol de café. Bonjour l'angoisse, bonjour l'angoisse, oh bonjour. Ma vie ressemble à la tartine de beurre, sauf que j'ai perdu le pain et qu'il n'y a plus de beurre. Je me dis que rien ne va plus, le casino de ma tête est foutu. J'ai envie de me cacher sous un millier d'oreillers. Bonjour l'angoisse, bonjour l'angoisse, oh bonjour.
Merci beaucoup André Consponville d'avoir ouvert cette semaine sur Lucrèce et son poème De la nature. De vous, on peut lire Le miel et l'absinthe, poésie et philosophie chez Lucrèce, disponible en poche et aux éditions Hermann, mais il faudrait peut-être demander une réédition car nous n'avons pas réussi à le trouver en version physique. Votre dernier livre s'intitule L'opportunité de vivre, ultime étude. Il est paru aux éditions Puf et pour lire De la nature de Lucrèce, on peut se tourner vers l'édition GF dans la traduction de José Cani Turpi. Et maintenant, c'est l'heure de retrouver le pourquoi du comment de Frédéric Worms.
Pourquoi célèbre-t-on les fondations ? Les philosophes se sont souvent intéressés aux fondements, par exemple Kant avec son livre au titre un peu énigmatique, Les fondements de la métaphysique des mœurs, c'est tout ce qui a suivi dans l'idéalisme allemand avec cette recherche du fondement absolu de la connaissance ou de la morale ou de la vie humaine en général. Mais dans l'histoire humaine, les peuples bizarrement s'intéressent moins aux fondements qu'aux fondations. Ce petit mot qui semble un peu mystérieux aussi et qui recoupe quelque chose justement de fondamental. Peut-être que c'est des fondations qu'il faut partir si l'on veut comprendre nos véritables fondements. Mais qu'est-ce qu'une fondation ? Une fondation, par exemple, pour une maison, quand on construit une maison, il faut la planter un peu en terre, il faut des fondations, ou pour une cité, pour une ville, dont on célèbre en effet la fondation dans le passé, eh bien, la fondation, c'est à la fois un geste humain, précis, un geste technique, historique, qui a une date dans le temps, qui est un commencement dont dépend encore ce qui a suivi et qui nous impressionne à la fois par sa longévité et par son importance pour nos vies. Les immeubles dépendent encore de la solidité de leur fondation. À Venise, par exemple, la fondation sur pilotis de l'église de la Salute est ébranlée par la fragilisation de la lagune qui rappelle la fragilité des fondations humaines, des maisons les plus belles dans la terre et dans l'eau. Mais d'un autre côté, la fondation des peuples, la fondation des cités est toujours aussi le rappel que ce que nous croyons éternel, un empire, a été introduit à un moment dans l'histoire. Ainsi, Michel Serres, dans son très grand livre méconnu sur Rome, le livre des fondations, nous rappelle-t-il que Rome a vécu pendant des siècles sur la légende de sa fondation. La légende de sa fondation entre deux frères, Rémus et Romulus. Une fondation héroïque aussi, rappelée par Virgile dans l'Énéide, venue de Troie avec Énée, dont Romulus et Rémus sont les descendants. Mais une fondation aussi qui est mystérieuse parce qu'elle est à la fois l'instauration de quelque chose qui a eu un déploiement extraordinaire dans l'histoire, qui reste fragile, qui peut s'écrouler. C'est la peur de l'effondrement que Michel Serres rappelle avec René Girard, avec le risque de la guerre civile, de la violence et de la catastrophe. Mais la fondation elle-même est fragile de manière peut-être plus intime encore. Ainsi, Michel Serres nous rappelle-t-il que dans le geste fondateur, il peut y avoir aussi un crime oublié. C'est parfois un fratricide, c'est parfois une violence qui peut être fondatrice. Mystérieusement, nous construisons parfois nos villes et nos cités sur des fragilités originaires et nous tendons à l'oublier. Il vaut mieux avoir des fondations dans quelque chose qu'on appellerait un fondement. Il vaut mieux se fonder sur des principes justes et solides, par exemple sur une constitution, sur un acte peut-être comme la Révolution française, mais s'appuyant sur une constitution durable, mais qu'il faut toujours reprendre. Ainsi, la fondation marque que le geste humain de construire est peut-être premier dans l'histoire, dans la recherche du fondement, mais que malgré tout, la fondation solide doit toujours revenir à quelque chose comme du fondement.
Merci beaucoup Frédéric et merci à toute l'équipe, Carla Michel, Anna Fulpin, Axel Dubois, Chaïma Giboire, Armance Bourquin et Nassim El-Kabli. À la réalisation, Nicolas Berger, à la prise de son, Élise Le. Pour retrouver les émissions avec philosophie et les pourquoi du comment, rendez-vous sur le site et l'application Radio France.